Bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver ce matin encore pour notre temps de culte. Ce que j'aime avec la louange, c'est que souvent, ça introduit tellement bien la prédication. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont déjà un peu donné la teneur du message ce matin, mais on va découvrir ça ensemble. Alors pour commencer, j'aimerais que nous puissions prendre une lecture dans l'évangile de Matthieu. Et on va lire au chapitre 9, les premiers versets. Donc Matthieu chapitre 9, verset 1. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème !» Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même ? » En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou lève-toi et marche ? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. » L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Amen. Alors ce matin, je vous propose d'aborder un sujet. Est-ce que vous avez discerné de quel sujet on va parler ? C'est timide ce matin. La foi, on va en parler un petit peu, mais on va parler du pardon ce matin. Or, le pardon, c'est un vaste sujet, on pourrait dire beaucoup de choses. Mais quelqu'un pourrait se dire, ah, le pardon, moi ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'aurais à me faire pardonner ? J'ai rien fait de mal. Et ce que nous avons à nous faire pardonner, c'est quelque chose qu'on appelle le péché. Et dans le langage courant, on associe souvent le péché avec la morale. Et c'est vrai, moralement, si on part du point de vue moral, on peut être une très bonne personne. Ne pas tuer, une majorité de personnes y arrivent. Mais parfois, juste avec des paroles, on peut tuer quelqu'un. Ne pas voler, ça peut être plus difficile, parce que parfois on va s'arranger avec la définition du vol. Par exemple, est-ce que nous avons déjà téléchargé un film sur Internet pour l'avoir en avance, pour ne pas le payer ? Aujourd'hui, c'est devenu tellement facile. Ne pas mentir. Ça se complique un peu aussi. J'ai regardé un petit peu les statistiques, alors il faut savoir que mentir, c'est pas que dire une chose qui est fausse. Mentir, ça peut être aussi oublier volontairement de dire quelque chose. Le mensonge par omission. Et les statistiques les plus favorables nous disent que dans une conversation de 10 minutes, on a tendance à dire au moins un mensonge. Et par jour, le minimum du minimum, ce serait 2 mensonges. Ça, c'est les statistiques les plus sympas. J'en ai vu d'autres un peu plus costauds où on parle de 200 mensonges par jour en moyenne. Ça nous montre un petit peu la teneur. Même si on a l'impression de ne jamais mentir, c'est que des fois on ne s'en rend même plus compte en fait. Ne pas convoiter. Nous vivons dans une société de consommation. La moindre publicité nous pousse à convoiter davantage. Et ça, je parle des biens de consommation, mais au-delà de ça, il y a aussi la convoitise dans les relations amoureuses. Dans notre culture continentale, occidentale, on voit de très nombreux médias qui nous montrent à chaque occasion qui est possible la nudité des personnes. Et c'est vrai que ça peut créer des convoitises. La consommation de pornographie n'a jamais été aussi forte que cette année en 2023. Donc, Je le disais, on peut moralement être une bonne personne, quoique pas si sûr, quand on regarde de plus près. Mais de toute façon, le péché, c'est pas qu'une histoire de morale. Ça dépasse complètement cette notion de morale. Péché, littéralement, c'est manquer le but. Et le but en question, c'est de faire la volonté de Dieu. Dès l'instant que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, eh bien, nous péchons. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Je l'ai entendu souffler. Voici ce que la Bible nous dit à ce sujet au travers de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ou encore dans Romains au chapitre 5 verset 12, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et si on avait cru être une exception, la Bible nous dit clairement, il n'y a pas d'exception. Dans Ecclésiaste au chapitre 7, verset 20, « Non, il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. » Ou encore, dans 1 Roi au chapitre 8, verset 46, « Il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché. » Là, ce sont que des exemples, on en trouve d'autres, hein, des références. Et puis, voici ce que dit Jésus à d'autres pharisiens quelques versets après notre passage d'introduction, dans Matthieu 9. C'est un passage d'ailleurs qu'on trouve aussi dans l'évangile de Marc. On va lire plutôt dans la version de Marc, qui est un tout petit peu plus complète. Dans Marc au chapitre 2, verset 17. « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » C'est-à-dire en fait que tant que nous avons l'impression que nous n'avons pas besoin d'être pardonnés, eh bien on ne reçoit pas le pardon. Donc c'est une première chose importante, c'est de prendre conscience de notre situation, de notre état de pécheur. Et pour être plus précis dans cette notion du besoin de demander pardon, eh bien nous avons besoin de passer par ce qu'on appelle la repentance, exactement. La repentance, eh bien, c'est demander pardon pour nos péchés, pour toutes les fois que nous n'avons pas fait la volonté de Dieu, car nous regrettons vraiment nos fautes. Et surtout, on ne veut plus du tout agir de la même manière. Si on demandait pardon en pensant à la prochaine fois où on allait faire les mêmes bêtises, ce n'est pas vraiment de la repentance. Et on le voit, Jésus est venu appeler les pécheurs à changer d'attitude. Et Dieu connaît nos pensées. Si on n'est pas dans cette démarche de vouloir changer vraiment d'attitude, eh bien, on passe à côté aussi de la repentance. Notre démarche, elle doit être sincère, authentique. Dieu sait si c'est vraiment sincère ou authentique ou si ça n'est qu'une apparence. Le roi David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, notamment parce qu'il se repentait lorsqu'il se rendait compte de ses fautes. Par exemple, il dit dans le psaume 65 au verset 4, « Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions. » Amen. Ou bien lorsque Dieu le reprend après l'épisode de l'adultère avec la femme d'Uri, dans 2 Samuel au chapitre 12 et verset 13, c'est le prophète Nathan qui vient le voir de la part de Dieu et qui lui explique tout ce qu'il vient de faire de mal. Et David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Il avoue. Et Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché. » Tu ne mourras pas. Pour David, c'était très concret. Hein. Il aurait dû mourir deux fois. Pour l'adultère et pour le meurtre plus tard qu'il a eu d'Uri. Double raison de mourir. Mais Dieu lui a pardonné. Dieu pardonne des choses même très graves. Alors après, est-ce que se repentir nous met à l'abri de faire des nouvelles fautes ? Non, hein, on est d'accord. D'ailleurs, David, lui aussi, hein, il est passé par cette étape-là. Il a eu d'autres occasions de demander pardon à Dieu pour ses fautes. Par exemple, lorsqu'il va faire le dénombrement du peuple des Hébreux, dans 2 Samuel au verset 24, au chapitre 24 et au verset 10, pardon, David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » Et encore, Dieu va lui pardonner. Comme il nous pardonne aussi à chaque fois que nous nous repentons. Car Dieu, merci Seigneur, ne nous abandonne pas dès que nous commettons une faute. Il continue d'être avec nous, comme un bon père qui prend soin de ses enfants, qui sait qu'un enfant, eh bien, parfois, oui, ça trébuche. Et Dieu est là, malgré justement nos chutes. Il nous aide à nous relever. Les Lévites d'ailleurs le rappellent hein, dans leur prière qu'on peut lire dans Néhémie au chapitre 9 et au verset 17, où ils disent « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Tu fais grâce, tu es rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les as pas abandonnés. Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. » Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, voilà, comme on l'a vu dans la première partie, nous sommes tous destinés à la mort à cause du péché. Mais dans cette partie 2, nous avons vu que nous avons la possibilité de nous repentir, c'est-à-dire de demander pardon au Seigneur et de choisir de changer d'attitude. Et lorsque nous passons par cette étape de la repentance, cela nous permet d'entrer à nouveau dans le plan de Dieu. Romains 6, 23, un verset que vous connaissez, je pense, par cœur. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur, parce que son plan pour chacun d'entre nous, c'est la vie éternelle en Jésus. Car oui, Dieu a choisi de nous sauver de la mort et de nous faire grâce. Alors parlons un petit peu de la grâce. La grâce qui est ce fameux don gratuit de Dieu. Et par définition, la grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Et c'est par le sacrifice de Jésus-Christ, par le don de sa vie, que nous échappons à la mort. Les pharisiens, dans le passage que nous avons lu à l'introduction, on l'a vu, ils sont choqués parce que d'après la loi de Moïse, pour que Dieu pardonne les péchés, il faut accomplir des sacrifices d'animaux selon un rituel bien établi. Et ces sacrifices, d'ailleurs, ne sont pas suffisants en eux-mêmes, il faut les renouveler régulièrement. Si vous voulez voir un petit peu en quoi ça consiste, je vous invite à lire le début du livre du Lévitique, notamment le chapitre 4, le chapitre 5, qui nous montre un petit peu tous ces rituels qui sont mis en place pour être pardonnés des fautes à l'époque de Jésus encore, où c'était pratiqué. Et donc ces pharisiens étaient choqués. Lorsque Jésus annonce à cet homme paralysé qu'il est pardonné de ses péchés, ça les bouscule dans leur perception des choses. Comment un être humain pourrait pardonner les péchés alors que seul Dieu a ce pouvoir ? Le chapitre 53 du livre d'Ésaïe nous décrit très clairement la situation. Je ne vais pas le lire en entier, on pourrait, hein, mais je vais plutôt le résumer. Je vous encourage à le lire lorsque vous serez rentré à la maison, parce que c'est tellement saisissant de voir avec quelle précision le prophète Ésaïe nous dit plusieurs siècles auparavant bien ce qui va se passer en fait. Alors Ésaïe fait d'abord un constat sur notre situation, c'est au verset 6. « Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. » En gros, chacun choisissait de faire sa volonté plutôt que celle de Dieu, situation de péché. Puis, il est question d'un homme qui est comparé au verset 2 à une jeune plante, à un rejeton. Dans d'autres passages, on parle aussi d'un germe. Et parler de cette manière, c'est l'une des manières dont on surnomme en fait le Messie, le Christ, celui qui vient de la part de Dieu pour sauver tous les êtres humains de la mort. Il est le serviteur de Dieu qui œuvre pour notre salut. Et au verset 11, on peut lire « Mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels. » Et oui, Jésus a été crucifié comme un criminel entre deux brigands. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables, les pécheurs, nous tous. C'est par le sacrifice de Jésus sur la croix que le pardon des péchés est devenu possible. Et ce n'est pas un sacrifice qui a besoin d'être renouvelé, contrairement au sacrifice d'animaux. C'est un sacrifice qui est valable une fois pour toutes, pour tous les péchés passés, les péchés présents et même les péchés à venir. Et puisque nous sommes sauvés de la mort par Jésus-Christ, nous avons accès à la vie éternelle. Amen. C'est ce que Romains chapitre 5 verset 21 nous rappelle. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et c'est pour cette raison que Jésus a vraiment ce pouvoir de pardonner les péchés, car son sacrifice permet ce pardon. On peut même aller un peu plus loin dans cette déclaration, en disant que c'est par Jésus seul que le pardon des péchés est possible, et par aucun autre moyen. Car Jésus dit de lui-même, dans Jean chapitre 14, verset 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » On ne vient au Père qu'en passant par moi, par Jésus. Et plus loin, l'apôtre Pierre déclare dans le livre des Actes, en parlant de Jésus, dans Actes 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen. J'ai envie de dire amen à tous les versets. Et pour bénéficier du salut, pour bénéficier de la grâce, pour bénéficier du don gratuit de Dieu, pour bénéficier du pardon de nos péchés, il suffit de croire que nous recevons ce pardon lorsque nous demandons pardon au nom de Jésus. La foi en Jésus comme notre Sauveur, c'est le point d'accès à cette réalité extraordinaire qui nous est révélé dans la parole de Dieu. L'un des versets les plus célèbres de la Bible le dit tellement bien, tellement clairement, vous le connaissez par cœur aussi, Jean 3, 16. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire tout le monde, croit en lui, en Jésus, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Amen. Malheureusement, certains pharisiens auxquels Jésus a été confronté, comme beaucoup d'êtres humains, y compris aujourd'hui, n'accordent de foi qu'à ce que leurs yeux humains sont capables de voir. Sauf que le pardon des péchés, c'est pas forcément hyper visible à l'œil humain. Alors, pour rendre cela visible dans le passage d'introduction que nous avons pris tout à l'heure dans Matthieu 9, Jésus, eh bien, va opérer une chose qui est tout aussi impossible aux êtres humains que de pardonner les péchés. Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que vous vous rappelez ? Il a guéri le paralysé, exactement. Donc, il guérit le paralysé, Et que se passe-t-il ? Au verset 7, l'homme se leva et rentra chez lui. La guérison est bien réelle, elle est attestée. Amenant ainsi la preuve que s'il avait pu guérir cet homme, alors c'était tout aussi réel et authentique lorsqu'il dit qu'il lui a pardonné ses péchés. Amen. Jésus a été sacrifié pour que nous bénéficions de la grâce d'être pardonnés de nos péchés, pour que nous ayons accès à la vie éternelle à ses côtés. Ah oui, je le précise, mais vous le savez tous déjà par cœur. Après son sacrifice sur la croix, Jésus est ressuscité, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté mort, au contraire. Il est revenu à la vie, Jésus est vivant. Amen. C'était quand même important de le dire. J'aimerais aborder un dernier point sur un autre aspect du pardon. Celui auquel l'apôtre Paul nous encourage à plusieurs reprises lorsqu'il dit « Pardonnez-vous réciproquement ». Je prends deux exemples, deux passages où il le dit notamment, dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Amen. Ce que Paul rappelle, eh bien, c'est l'enseignement de Jésus lui-même. C'est un point sensible pour les disciples de Jésus. Parce que lorsque Jésus leur enseigne ce qu'est le pardon, comment il faut pardonner, Pierre intervient dans Matthieu au chapitre 18 et verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Ah, Pierre pensait être un bon élève en proposant 7 fois. Ah, c'était déjà waouh, j'ai pardonné 7 fois à la même personne. Mais Jésus nous montre par sa réponse que eh bien, le pardon que nous sommes appelés à accorder doit être illimité. C'est ça que ça veut dire. 70 fois, 7 fois, on n'est pas dans une notion mathématique. On est dans cette notion de perfection divine dans le pardon. Donc illimité et sans condition. Dieu a déjà pardonné. Est-ce qu'on a envie d'être plus sévère que le Seigneur ? Et non. Jésus nous rappelle dans la prière la plus célèbre, celle que l'on appelle le Notre Père, que nous devons aspirer à pardonner. C'est essentiel. Dans Matthieu chapitre 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses. » Repentance. « Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On est dans le « pardonnez-vous réciproquement ». Et Jésus nous met en garde, car la façon dont nous pardonnons aux autres, eh bien, ça a un impact sur notre propre pardon. Et c'est les versets qui suivent qui nous le disent. On est au verset 14 dans Matthieu 6. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Amen. Mais il y a la suite. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Là, c'est moins sympa. En fin de compte, lorsque nous refusons de pardonner aux autres, eh bien, c'est comme si nous refusions le plan de Dieu. C'est ça, en fait, qui se passe. On sort de la volonté du Seigneur. Il nous appelle à pardonner. Mais pardonner, c'est vrai, c'est parfois difficile, très difficile. Et les disciples le savent bien. Dans l'évangile de Luc, il y a un passage parallèle à cet enseignement de Jésus sur le pardon. Et dans l'évangile de Luc, du coup, ça continue avec une question des disciples. On est dans Luc 17 au verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi !» C'est un peu comme si les apôtres disaient, oh, « Comment pardonner lorsque c'est trop difficile ?» C'est trop dur de pardonner de façon illimitée. C'est trop dur de pardonner sans condition. C'est impossible pour nous. Nous avons besoin de plus de foi. D'où augmente notre foi. Et la réponse de Jésus, elle n'est pas celle qu'on aurait imaginée. On est au verset 6 dans Luc 17. Le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Autrement dit, si je paraphrase Jésus, c'est comme s'il disait, « C'est vrai, mes chers disciples. C'est vrai, c'est trop difficile. » Mais ce qui compte, c'est pas la taille de la foi. C'est comment vous la mettez en pratique. Et pardonner, ça commence par le dire. Je te pardonne. Et vous verrez comment Dieu permettra que l'impossible se produise vraiment. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu créateur. Il peut créer le pardon dans notre cœur là où il n'existait pas. Là où on pensait que c'était impossible. Lorsque par la foi nous formulons oralement ce pardon, Dieu lui fait prendre place dans notre cœur. Il le fait par l'action du Saint-Esprit. Parfois, ça va être instantané. Waouh ! Comme la guérison. Des fois, c'est instantané, ça arrive d'un coup, d'un seul. Le paralysé se lève et marche. Et parfois, ça peut prendre un peu plus de temps. Dieu est là. Il est là pour nous soutenir. Le temps que la guérison puisse venir, le temps que le pardon puisse prendre pleinement place dans notre vie. Peut-être qu'il faudra, à plusieurs reprises, le redire, « Je te pardonne, je te pardonne. » Ce n'est pas un élément de motivation personnelle. C'est une déclaration spirituelle de la foi. Chloé nous en a parlé tout à l'heure, pendant le temps de louange. Il y a des choses que nous sommes appelés à déclarer parce que Dieu nous demande de les déclarer. Amen. Dieu est là et son Saint-Esprit nous soutient. Il nous soutient parce que nous avons accepté de marcher dans la volonté du Seigneur. Et ça, c'est le plus important. Amen. Pour conclure, en une phrase. Dieu se glorifie dans nos vies au travers du pardon. D'abord, le pardon qu'il accorde en tant que Dieu, mais aussi au travers de celui que nous sommes appelés à accorder avec l'aide du Saint-Esprit. Ainsi, lorsque ceux qui nous entourent verront le pardon de Dieu se manifester dans nos vies, nous aussi, eh bien, nous pourrons vivre ce que nous avons lu en introduction de ce message. Dans Matthieu au chapitre 9, verset 8, « Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. » Amen. Ah Seigneur Jésus, merci mon Dieu vraiment pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Seigneur, je veux vraiment te prier pour tous mes frères et sœurs ce matin. Que vraiment tous ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche de repentance, Seigneur, puissent la faire. Que tu puisses accorder ton pardon. Aide-nous, Seigneur, chaque jour à nous placer devant toi. Examine nos vies, révèle à nos cœurs, Seigneur, toutes les fois où nous sommes passés à côté, toutes les fois où nous avons manqué le but, toutes les fois où nous n'avons pas fait ta volonté. Seigneur, aide-nous chaque jour à plier le genou devant toi. À te demander pardon pour nos fautes. Seigneur, car tu es bon, car tu es miséricordieux, pour nous pardonner, pour nous restaurer, pour nous relever, Seigneur. Aide-nous aussi, Seigneur, à accorder à notre tour le pardon à ceux qui nous ont fait du tort. Seigneur, permets que nous ne retenions pas de la rancune, des mauvais sentiments, Seigneur, mais qu'au contraire, ton pardon puisse prendre place, ton amour en nous puisse prendre place, Seigneur éternel. Nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, c'est impossible, Seigneur, quand on y réfléchit avec nos capacités humaines. Mais nous savons que par ton esprit, nous en devenons capables. Et nous voulons déclarer, Seigneur, que nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du tort, quel que soit ce tort, même ce qui a été tellement grave parfois, Seigneur, qui nous a fait du mal, qui a pu faire du mal à nos proches. Mais mon Dieu, toi, tu es tout puissant pour restaurer, pour guérir, pour relever et pour nous donner, Seigneur, cette grâce de pouvoir pardonner à notre tour. Ah, merci Seigneur éternel. Nous nous confions en toi, Seigneur, pour pouvoir faire ta volonté. Manifeste-toi dans nos vies et permets, Seigneur, qu'au travers du pardon que nous accordons, cela soit aussi visible, soit aussi manifeste, Seigneur, que lorsque ce paralysé s'est levé, comme une preuve, Seigneur, que tu es là et que tu pardonnes, Seigneur, à ton tour. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Que ton nom soit élevé et glorifié. Amen.